Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
Ben ça y est, on est confortablement installé dans ces Jeux paralympiques, jour 4 des compétitions qui battent leur plein aujourd'hui. Encore une fois, la récolte va bon train, ou du moins la récolte continue d'exister. Je sais qu'il n'y a pas que les médailles dans la vie, mais je ne sais pas pourquoi ça nous intéresse toujours de savoir qui a gagné quoi. Et c'est bien sûr le genre d'information qui vous sera donné au cours des prochaines minutes. Philippe Asselin est là, il a le résumé de l'actualité sportive à Rio en main. Alors soyez rassurés, on va même ouvrir l'émission comme on le fait toujours avec ça dans quelques secondes. Sinon, pour le reste, on va aller faire notre saut quotidien à Rio en fin d'émission dans une grosse vingtaine de minutes. Retrouver le rédacteur en chef de Vivre FM, Vincent Lockman. Et on va parler de journaux, justement, parce que les Paralympiques se taillent une belle place dans les médias brésiliens. C'est ce que l'on croit comprendre. Bref, Vincent nous expliquera tout ça. Et sinon, on va continuer de faire dans l'éducatif, j'ai envie de dire. On s'était donné ça aussi comme mandat de non seulement parler des jeux actuels, mais de revisiter l'histoire, de revisiter également les légendes ou les ceux et celles qui ont fait les Jeux paralympiques au cours de l'histoire, au cours du temps. Et on a d'ailleurs un premier segment sur les légendes aujourd'hui. Philippe et moi vous présenterons deux athlètes. Ce ne sont pas des Canadiens, ce sont des gens qui se sont élevés au-dessus de leur sport, au-dessus de leur nationalité, pour incarner vraiment l'excellence paralympique. Alors, moi j'ai un Italien et Philippe a un Américain.
Une Américaine,
donc, dont nous vous parlerons. J'en parle comme si on nous les avait distribués sans savoir. Moi, j'ai hérité d'un Italien. J'étais très, très content. Alors, ça, c'est prévu pour un peu plus tard dans l'émission. Et sinon, je vous entretiendrai un peu sur les médailles. On parle beaucoup de les gagner, mais de quoi sont-elles faites réellement? Qui les fabrique? Et y a-t-il des particularités pour les médailles paralympiques? Je vous raconterai tout ça dans quelques instants. Mais pour tout de suite, chose promise, chose due, les derniers résultats s'en viennent. Et Philippe Asselin est là avec ses derniers résultats. Philippe, bonjour.
Bonjour Alexandre. Oui, dernier résultat. On va commencer à partir d'hier quand on s'est laissé. Ouais. Hier, j'avais pas parlé de tir à l'arc. Ça a débuté hier à Rio. Et on a donc deux Canadiens, un homme et une femme. Donc Kevin Evans qui a terminé 22e lui de son groupe. Chez les femmes, Karen Van Ness a terminé quand même quatrième, donc au pied du podium.
Okay.
Il y a une épreuve en mix, donc eux ont terminé septième ensemble au grand total, donc quand même des bons résultats pour le tir à l'arc. Maintenant, ça va devoir du côté du goalball, puisque le Canada a nivelé sa fiche 1-1 avec une victoire de 7-5 contre l'Allemagne, soulignant la performance de Brendan Gaulin, qui est originaire de Laval, mm-hmm. qui a dirigé quand même 6 buts pour le Canada. Donc,
excellent.
Très belle performance. Ouais. En natation hier, Benoît Huot et Alec Elliott étaient à la finale du 100 mètres d'eau et ils se sont classés respectivement 5e et 7e. Aurélie Rivard, elle, a terminé 4e de sa finale. En tennis de table, Stéphanie Chan a été éliminée ce matin.
Ah.
En fait, éliminée. Non, c'est pas vrai. Elle a perdu en demi-finale. Donc, elle ira pour la médaille de bronze. Elle a perdu contre une néerlandaise. En basket en fauteuil roulant, maintenant, on en parle quand même souvent
tous les
jours.
Hein. Ouais. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on
leur porte malheur?
Ou...
Ils ont perdu, donc, fiche de 0-3 dans ce tournoi préliminaire. Ils ont perdu contre l'Australie. Quand même la puissance présentement, champion en titre du dernier championnat du monde, 78-53. David Eng, porte-drapeau, était le meilleur pour le Canada avec 17 points marqués. Sinon, aujourd'hui, trois médailles, en aviron d'abord, alors que l'équipe canadienne a remporté le bronze, terminant derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis. Tandis qu'ensuite, en athlétisme, Brett Lakatos, on a parlé de lui hier, il avait gagné une médaille d'or cette fois-ci, médaille d'argent aux 400 mètres. Et son coéquipier aussi en athlétisme, Liam Stanley, lui, cette fois-ci aux 1500, a gagné l'argent. Donc, félicitations à ces messieurs.
D'excellents résultats qui viennent s'ajouter à la journée de la veille, là, qui avait été très profitable pour le Canada.
Très faste, en effet, Alexandre. Et basketball féminin, première défaite pour les athlètes canadiennes qui ont perdu face aux Allemandes, 68-54. Match quand même assez serré. Et sinon, en boccia, deux défaites aussi.
Ouais.
Donc, les deux équipes de boccia en BC4 et en BC3 ont une fiche de 0-2. Ils ont perdu respectivement 7-3 face à la Thaïlande et 7-0 face à la Belgique.
Il y a une des équipes, la première dont tu parlais, je pense, qui est pas loin d'une qualification pour les quarts de finale, mais pour les autres, c'est un peu plus difficile.
Ça va être plus complexe.
On va bien sûr parler de ce qui est à surveiller en fin d'émission. Philippe, un grand merci pour ces premiers résultats. Alors, des médailles, tout le monde en veut. Tous les médias ne parlent que de ça. Mais qu'en est-il de l'objet, de quand vous la tenez, la médaille, de quoi est-elle faite? Qui la fabrique, d'abord? C'est un peu l'équivalent de la monnaie royale canadienne. C'est la monnaie brésilienne qui s'appelle Casa da Moeda, fabrique ces médailles, qui a fabriqué... c'est plus de 5 000 au total. 5 530 récompenses. Il y en avait 2 488 pour les Olympiques et un peu plus pour les paras, 2 642. Il y a des nuances, évidemment, ne serait-ce que c'est marqué paralympique sur la médaille paralympique, mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Les médailles qui ont la même composition et qui, d'ailleurs, cette composition-là, on était très fiers là, du côté de Casa da Moeda de dire que on a fait beaucoup dans les produits recyclés. Il y a 30 % de l'argent et du bronze utilisés dans la production des médailles qui provenaient de matériaux recyclés. Même chose pour les rubans également, là, qui permettent de les accrocher au cou. Et je disais, il y a des nuances pour les médailles paralympiques. Il y en a une qui est innovatrice et qui est très intéressante. On a installé un dispositif dans chacune des médailles pour que ça produise un son et qu'on puisse identifier la couleur de la médaille. Donc, c'est un système assez sophistiqué de petites sphères à l'intérieur dans lesquelles il y a une bille, j'imagine, où enfin ça fait un bruit. Et dans la médaille de bronze, il y en a 16. Dans la médaille d'argent, il y en a 20. Et dans la médaille d'or, il y en a 28. Donc, c'est comme ça qu'on peut les différencier en la brassant un petit peu. Et évidemment, bon, ça permet aux athlètes non-voyants peuvent la reconnaître comme ça, parce que pour les non-voyants, il y a aussi du braille. C'est écrit en braille sur les médailles, mais ça, c'est pas nouveau. Ça sert bien sûr à tout ce qui est nécessaire à l'identification. Maintenant, ces médailles, ça pèse 500 grammes. C'est quand même assez,
quand même lourd, hein?
Assez pesant, oui, exact. Et il est dans les... Ça affole toujours un peu les médias parce que ça fait des beaux titres, mais justement, si vous faites une petite recherche, vous allez tomber sur quelques articles qui disent « Les médailles d'or sont faites en argent », parce que c'est vrai. La médaille d'or sur 500 grammes, je disais, 494 grammes d'argent. Donc, c'est 92,5% de la composition qui n'est pas dans le bon matériau. Enfin, il y a seulement 6% d'or dans la fabrication de la médaille. La médaille d'argent, elle, c'est 500 grammes d'argent, évidemment. Et le bronze, c'est essentiellement du cuivre. 97% de cuivre et 25% de zinc. J'ai dit 25%, c'est 25 grammes, donc sur les 460, sur les 500, là, ça fait 3% de zinc, pardon. Et c'est donc, comme je le disais, là, c'est pour ce qui est du matériau, c'est la même chose pour les médailles olympiques et les médailles paralympiques. J'aimerais bien en brasser une, voir comment ça sonne, mais c'est une très belle idée et j'imagine, un peu comme le braille, il y a plusieurs... amené, là, j'imagine qu'on va reproduire cette expérience-là pour les prochains Jeux paralympiques.
Trio 2016, les Jeux continuent sur Canal M, la radio de Vuzivoy.
Alors, on se propose pour la suite de cette série, parce qu'on n'a pas commencé encore, on va le faire aujourd'hui, mais ça faisait partie de nos souhaits que de revisiter un peu l'histoire des athlètes qui ont été plus grands que leur sport dans plusieurs cas et qui sont devenus des légendes paralympiques, et de sortir de chez nous un peu aussi. J'aime bien parler de Chantal Petitclerc, qui est une légende vivante là, de la paralympique et dans son cas là, de l'athlétisme en fauteuil roulant, mais chaque nation a des équivalents, si on peut dire, ou enfin des personnalités qui nagent dans la même amplitude. Philippe Asselin, on va commencer avec toi. Tu as une athlète américaine donc à nous présenter.
Eh oui, j'ai l'honneur, Alexandre, de vous présenter l'athlète la plus titrée de l'histoire des Paralympiques.
Point.
Ouais, voilà, la reine des Paralympiques. Je vous parle de l'américaine Trisha Zorn. Trisha Zorn qui est née en 64, le 1er juin 64 à Orange, en Californie. Donc, c'est une Américaine. Ouais. Elle est née avec un handicap de la vue. Elle est née aveugle. Et elle nageait. Et elle a nagé longtemps aux Paralympiques.
Okay.
Elle a nagé dans les catégories S12, SB12 et SM12. Là, donc, pour des athlètes avec une déficience de la vue. Et elle a participé aux Jeux paralympiques de 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 et 2004.
Alors, son truc pour ramasser les médailles, c'était
de toutes les
fois. De pas en manquer. Ouais.
Et non, mais c'est une longévité.
C'est impressionnant.
Et elle a remporté des médailles à tous ces Jeux-là. Donc, elle a remporté un grand total de 55 médailles.
Ah, wow!
Ouais, c'est assez impressionnant. 41 d'or, 9 d'argent et 5 de bronze. Donc, on peut pas dire qu'elle a dominé son sport de A à Z. Et,
elle a dominé les décennies même,
oui, voilà.
Sportive.
Ouais. Et donc, elle a été introduite au Temple de la Renommée en 2012, sans grande surprise.
J'espère, oui.
Au niveau paralympique. Sinon aussi, elle a été, c'est à noter, elle a été introduite en fait en 2005 à Times Square, à New York. Ils l'ont honorée avec notamment Ian Thorpe, Nadia Comaneci, George Welsh,
okay,
et Françoise Mangbo, donc qui sont tous des légendes sportives. Donc elle a mis sa place avec eux, tout en haut.
Et on peut comprendre pourquoi. Moi, j'ai à vous faire découvrir Roberto Marson, un athlète italien, comme je les aime, c'est-à-dire multidisciplinaire. Ça m'impressionne beaucoup, moi, quand vous excellez dans un sport, je suis déjà impressionné, mais si vous réussissez à exceller dans 3, 4, 5 sports, ça ajoute une dimension qui est intéressante. Alors, Marson est né en 1944, il nous a quittés, cela dit, en 2011. Il était donc basketteur, escrimeur et nageur dans les Jeux et les compétitions paralympiques. Il va perdre l'usage de ses jambes en 1964 dans un accident et va rapidement se mettre à la pratique du sport, même que 2 ans plus tard, là, il va participer aux Jeux paralympiques de Tokyo dans 3 disciplines, donc l'athlétisme, l'escrime et la natation. Première expérience, formatrice, mais ne rien pour garnir là, son coffre de médailles. Elle va revenir bredouille des 2 épreuves de natation dans lesquelles il s'engage. Elle va finir 4e dans 2 épreuves de nage libre, mais elle va avoir un peu plus de succès en athlétisme. Elle va gagner une médaille d'or au lancer du disque et du lancer du javelot, l'argent au slalom et au lancer du poids. Puis sa récolte est quand même pas mal pour Tokyo, là, j'ai parlé trop vite. 2 médailles d'argent en escrime également, donc pas seulement inscrit dans les compétitions, mais aussi quelques médailles. Mais c'est vraiment en 68 que sa légende va s'inscrire. Il sera l'homme des Jeux paralympiques de 68 avec un total de 10 médailles d'or, 4 en escrime pour une seule paralympiade, là. Je disais donc 4 en escrime, 3 en natation et en athlétisme, et 2 médailles d'argent et 1 de bronze en plus de ça, donc un grand total de 13 médailles. Puis à partir de 72, son programme va se réduire. Là, il va s'inscrire à une épreuve d'athlétisme et 4 épreuves d'escrime. Il va se classer 4e au disque. Va abandonner un peu plus tard là, au fleuret dans ses jeux, mais il va quand même conserver son titre individuel au sabre et à l'épée. en plus de reconquérir le titre à l'épée par équipe. Un total donc de 16 médailles d'or en carrière, 7 médailles d'argent, 3 médailles de bronze dans les disciplines là, que j'ai mentionnées. Puis, à sa retraite sportive, va continuer de rester très, très impliqué dans le sport. Il va même être le président de la Fédération italienne du sport paralympique. Roberto Marçon, donc, était pas juste bon, était bon dans plein d'affaires. Et c'est le moment de notre show quotidien à Rio. Allons retrouver le rédacteur en chef de Vivre FM, Vincent Lochmann. Bonjour, Vincent.
Bonjour, Alexandre.
Alors, ça va très bien toi-même?
Ça va. Il fait très beau aujourd'hui sur Rio. Grand soleil, grosse chaleur. C'était pas mal couvert ces temps-ci, c'était un peu pénible cette chaleur moite, mais là aujourd'hui il fait un vrai beau grand soleil.
Bon, heureux d'entendre ça, je l'annonçais en début d'émission, on va s'intéresser un petit peu ensemble à ce qui se crie et ce qui se dit dans les médias brésiliens. Est-ce que les Jeux paralympiques occupent une belle place?
Alors oui, ça c'est en une là, du journal Globo ce matin, et vous connaissez les Brésiliens, ils sont très fiers de leur champion. Donc le Globo, aujourd'hui, titre sur un disque en or, c'est la formule choisie par le Globo. Je ne retrouve plus la première page, mais je l'avais sous les yeux il y a une seconde, et c'est le portrait de Claudine dos Santos, qui a remporté une médaille d'or au lancement du disque, il y a son portrait dans le Globo aujourd'hui. On n'a pas forcément regardé toute la presse, mais en tout cas, le Globo fait un cahier spécial Rio 2016 avec tout un tas de résultats sur les Jeux paralympiques, et évidemment en particulier sur la question des résultats des sportifs brésiliens.
Ouais.
Il y a aussi un cahier dans le Globo aujourd'hui qui s'appelle qui dit du sport toute l'année et qui dit les paralympiques, ça permet aussi de développer des activités sportives adaptées pour les personnes avec, on dit comme déficiencia ici, avec une déficience. Et donc, il y a un article sur toutes les activités qu'on peut faire à la plage et qui sont accessibles, les activités au bord de l'eau. Donc, il y a les systèmes pour les bains, il y a tout un tas d'adaptations qui sont présentées. Et je crois que les Jeux paralympiques, ça a donné un petit coup de pouce. Alors, il faudra revenir peut-être dans un mois, dans un an, ici, ouais, pour voir ce que c'est devenu, mais en tout cas, il y a un vrai focus sur l'accessibilité des activités sportives pour les personnes handicapées.
Et une vraie célébration des athlètes locaux, ce qui
ah,
est...
Ah oui.
Le
parc olympique est jaune aux couleurs du Brésil, mais ce matin, à la sortie du bus, on est dimanche, donc c'est plus simple pour les Brésiliens de venir aujourd'hui. Et il y avait une foule sans arrêt, sans discontinuer, à la sortie du... Et vraiment beaucoup de monde et des Brésiliens très enthousiastes, ouais, pour venir soutenir leurs athlètes.
Bien, on est content d'entendre ça et que cette ambiance là, ne dérougisse pas. C'est des très belles nouvelles. On parlait médias. Restons un peu dans l'angle médiatique, parce que bon, le boulot d'un journaliste, c'est souvent de courir les conférences de presse. Il y en a une qui a été très courue aujourd'hui, Vincent.
Oui, il y avait une conférence de presse donnée par l'athlète de l'athlétisme belge,
oui,
qui s'appelle Marieke Vervoort. Et il y avait 80 journalistes, parce que Marieke Vervoort avait dit à la presse belge qu'elle avait fait des démarches pour avoir recours à l'euthanasie. Marieke Vervoort, elle est atteinte d'une maladie évolutive, qui est une maladie dont elle dit que les médecins ont du mal à trouver exactement ce que c'est, mais en tout cas, elle dit, depuis l'âge de 16 ans, chaque fois que je vais chez le médecin, je reviens avec des mauvaises nouvelles. Mmh. Et donc, en 2008, elle a fait les démarches pour avoir recours à l'euthanasie si jamais cette maladie allait plus mal. Et elle a dit que ces Jeux paralympiques, ce serait ses derniers Jeux. Au passage, elle a remporté une médaille d'argent hier en 400 mètres, et c'était vraiment formidable. Et elle sera à nouveau dans les compétitions samedi. Et donc, ce qu'elle a dit, Marika, ce matin, c'est « Oui, j'ai dit que j'aurais recours à l'euthanasie un jour si la maladie évolue trop et que je souffre trop. » Mais elle voulait reprendre ce qu'avait dit les médias belges qui disaient qu'elle allait avoir recours à l'euthanasie tout de suite après les Jeux. Et alors, elle a dit non.
C'est-à-dire, moi, dans les différents articles que j'ai parcourus, les titres étaient très sensationnalistes, mais à la lecture des articles, on s'apercevait que c'était loin d'être un choix arrêté et définitif. Et il faut savoir aussi qu'en Belgique, là, la loi permet l'euthanasie, donc c'est une réalité qui est différente, là, dépendamment d'où on se situe, mais ça fait partie de la réalité là-bas. Ben, je suis content d'entendre qu'elle a remis les pendules à l'heure.
Elle a bien expliqué qu'il fallait 3 avis de 3 médecins différents, une consultation avec un psychiatre. Elle a bien expliqué tout ça. Et elle a expliqué, c'était vraiment tout à fait intéressant, et on voulait bien croire ce qu'elle disait, que finalement, le fait d'avoir fait cette démarche, le fait de se dire que si jamais la vie devient trop pénible, et on a bien compris qu'elle vivait des journées entières de souffrance et de douleur, le fait d'avoir les papiers, de se dire si j'ai besoin, je peux avoir recours à l'euthanasie, elle explique que ça l'aide à vivre. Et que s'il n'avait pas ses papiers, il y a longtemps qu'elle se serait suicidée, et grâce à ses papiers, elle a expliqué que ça lui donnait de la paix, ça lui donnait une forme de sérénité qui lui permettait de mieux affronter ses douleurs, dont on a compris là ce matin à quel point ça pouvait être d'une violence inouïe, cette maladie.
Et ces douleurs qui parfois l'empêchent de dormir, tant elles sont intenses, et malgré ça, elle réussit non seulement à compétitionner, mais à monter sur le podium. Tu le disais, Vincent, hier, médaille d'argent toute fraîche, mais elle a un palmarès très impressionnant aussi.
Oui, alors elle a dit ce matin, quelquefois je dors 10 minutes dans la nuit à cause de la douleur, et je vais à l'entraînement à 9h, et elle a dit, elle pousse, là, vous voyez, elle est en fauteuil roulant, parce qu'elle n'a plus l'usage de ses jambes, donc elle court en athlétisme avec ses bras, avec son fauteuil roulant, et elle dit, je pousse ma douleur, je pousse ma souffrance, je pousse ma colère avec mes bras, elle dit, je les sors de mon corps, mes bras vont sortir de mon corps, samedi pour la dernière compétition de sa carrière, et si je fais des bons résultats, ça vient aussi de cette colère, de toute cette souffrance, parce que le sport, ça m'aide à dépasser tout ça. C'était très émouvant, cette conférence de presse ce matin, et Marika était d'une extrême dignité, répondant à chaque question avec beaucoup de précision, et elle a redit à tout le monde, elle a dit une chose qui était vraiment tout à fait touchante, elle a dit vous savez, quelquefois on souffre, on a mal, et le lendemain, nous autres, on a tendance à dire, ah là là, j'étais pas bien hier, et on se répète ça toute la journée, le jour où on va bien, et elle dit, moi, les jours où je vais bien, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais bien, qu'est-ce que c'est agréable, et elle a dit et redit plusieurs fois, profitez de chaque instant de la vie.
En terminant, Vincent, il nous reste une trentaine de secondes. Les Brésiliens parlent des athlètes brésiliens. Nous, ici au Canada, on parle des athlètes canadiens. Comment ça se passe pour la France, très, très rapidement, là?
Alors, 3 médailles de bronze ce matin. On a fait un titre d'un article qu'on a appelé Les bronzés sont à Rio. voilà, on est content parce qu'on était un petit peu en panne sur nos médailles hier. Bon, le bronze, c'est déjà du bronze. Allez, on va dire ça.
C'est toujours ça. Et ça fait d'excellents titres, on en conviendra. Vincent Lockman, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, on se reparle très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Vincent Lockman est le rédacteur en chef de Vivre FM, notre station cousine, que vous pouvez trouver évidemment très, très facilement sur le web.
Rio 2016, les Jeux continuent.
Ça passe vite, ces émissions, et déjà on est dans le futur, dans l'avenir, à savoir qu'est-ce qu'il y a à surveiller. On retrouve Philippe Asselin, qui est le maître de ces informations. Philippe, qu'est-ce qu'il y a sur ton radar?
Eh bien, ce soir, on a des finales en natation, Aurélie Rivard et Benoît Huot, notamment à surveiller, deux bonnes chances de médailles.
Les jours se suivent et se ressemblent.
Pour eux qui vont terminer leur compétition quand même assez bientôt. Je pense que dans quelques jours, ça va être terminé.
D'accord.
Pour la natation. Sinon, en athlétisme, on a une finale aux 1500 mètres avec un nom dont un des athlètes dont le nom m'échappe, mais je reviendrai demain, promis, avec son guide qui seront donc en compétition pour une médaille, de très bonnes chances de médaille. Sinon, lundi, c'est l'entrée en scène de Pierre Mainville. Pierre Mainville en escrime en fauteuil roulant, qui aura trois matchs collés. Donc, on débute ça demain matin très tôt contre un Chinois, Yang Feng. Ensuite de ça, on affrontera un Polonais, Adrian Castro, et finalement un Allemand du nom de famille de Schema. Donc, trois matchs demain matin pour Pierre Mainville. Ouais, lui qui est un bon espoir de médaille même pour le Canada. Sinon, on continuera en... En tir à l'arc, on est au huitième de finale dans l'équipe mixte de tir à l'arc, alors que le Canada affrontera l'Espagne demain matin aussi. Demain midi, en fait. Ensuite de ça, on aura toujours de la natation en catégorie S13, en catégorie SM4, en catégorie S10 aussi. Donc, ce sera le papillon pour Benoît Huot et ses coéquipiers.
Okay.
En athlétisme, on aura du lancer du poids demain, où on pourra suivre des Canada. Le Canada, pardon. En gold ball, le Canada affrontera l'Algérie. Et finalement, en basketball en fauteuil roulant chez les femmes, le Canada affrontera le Brésil demain. Début des sports équestres aussi aujourd'hui et demain. C'est, on est toujours dans les tests et de la voile aussi demain.
Début de la voile, exactement. Alors, c'est un programme très, très chargé. D'ailleurs, les sports équestres, c'est comment dire, c'est très méconnu aussi dans les Jeux olympiques. C'est le cas un peu pour les paras également. Mais c'est un des sports où il y a le plus... C'est presque exactement la même chose là, que ce qu'on a vu il y a... Ben, ce qu'on a vu, si vous les avez regardés, là, parce que je viens de dire que c'est un peu méconnu, mais si vous les avez regardés aux Jeux olympiques, ça, c'est très, très, très similaire. Philippe Asselin, un grand, grand merci. On va se retrouver demain, bien évidemment. Merci également à Vincent Lochmann, notre homme sur le terrain à Rio. Un petit merci tout spécial pour le Comité paralympique canadien également, qui est à nos côtés dans la construction de ces émissions. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur nos invités sur le site de Canal M. Un petit merci pour Christiane Campagna qui est aux réseaux sociaux sur cette émission. Mathieu Tessier en assure la mise en onde. Merci beaucoup, Mathieu. On se retrouve demain, déjà demain, à mi-chemin de notre périple de cette série Rio 2016, les Jeux continuent. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. Salut! We'll be right back.